Évangile de Jean au chapitre 4, Évangile de Jean au chapitre 4. Alors vous le savez parce que je l'ai déjà répété plusieurs fois hein, que les quatre évangiles nous présentent le Seigneur Jésus-Christ de différentes manières, sous différents aspects, de différents angles si on peut dire. Et il nous présente bien évidemment cette nouvelle alliance que Dieu a décidé, choisi d'établir avec non seulement le peuple juif mais le monde entier. Et on sait que les différents évangiles donc présentent Christ d'une manière où ça va toucher hein, ses auditeurs. On sait que Matthieu présente Jésus-Christ roi. Hein, c'est un évangile qui est surtout adressé au peuple juif et ainsi de suite. Hein, l'évangile de Luc c'est plutôt hein, quelque chose qui est ouvert aux Grecs hein, de par sa structure et son message. Et il nous présente Jésus dans sa perfection. L'évangile de Marc nous présente Christ comme serviteur. Mais l'évangile de Jean, lui, nous présente Jésus-Christ, Dieu, n'est-ce pas? Et c'est évident à la lecture de cet évangile que Jésus-Christ est Dieu. Il l'a démontré par la vie parfaite qu'il a menée, il l'a déclaré, peut-être pas aussi ouvertement que certains aimeraient l'entendre ou le lire, mais on sait que Jésus a de plusieurs façons montré hein, qu'il était Dieu et par ses propos déclarait qu'il est Dieu hein, et que dans cet évangile de Jean on retrouve notamment hein, le verset probablement le plus connu de la Bible dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Et ce que j'apprécie beaucoup justement avec ce chapitre 4 et le chapitre 3 qui est juste avant, c'est qu'on voit le Seigneur Jésus en pleine discussion avec des individus, des personnes. Il n'est pas en train de discuter à une foule, il n'est pas en train d'enseigner à une foule autour de lui, ni même en train d'enseigner ses disciples. Il est en tête à tête avec deux personnes de deux cultures différentes, deux personnes d'univers vraiment complètement différents, et le Seigneur Jésus qui parvient à montrer à l'un et à l'autre leurs besoins de grâce, leurs besoins de salut. Et donc, on voit hein, ici dans ce chapitre 4, eh bien, Jésus s'adresser à une femme samaritaine. Et je vous invite à juste faire la lecture hein, de ces versets pour remettre les choses à notre mémoire ce matin. Jean chapitre 4, verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il restait là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Et nous arrêterons notre lecture là. Alors ce matin, ce que j'aimerais surtout que l'on puisse regarder ensemble, c'est à la manière dont le Seigneur Jésus a amené cette femme à croire, a amené cette femme à la foi. On sait qu'on a autour de nous des milliards de personnes qui ont une vision plutôt déformée de ce que doit être le christianisme. Et même parmi ceux qui se disent chrétiens, leur conception de ce que l'Église doit être, de ce qu'un chrétien doit être, est souvent floue, faussée par leurs propres opinions ou leurs propres sentiments. C'est important pour nous de nous attacher à la parole, pour savoir ce que nous devons croire et la manière dont nous devons vivre. Mais ici, dans ce passage, ce que j'aimerais faire, c'est justement regarder à plusieurs éléments que nous voyons en Jésus-Christ, dans son approche, dans son témoignage envers cette femme samaritaine, et voir qu'il y a des choses qui sont bien plus importantes pour l'Église et pour nous chrétiens que ce que beaucoup pensent de ce que doit être le christianisme. Je crois que ici, le message le plus important que nous voyons dans ce chapitre 4, c'est le fait que Christ se révèle, n'est-ce pas ? Nous avons, nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, chrétiens bibliques, cette mission, ce commandement de la part de Christ, de faire de toutes les nations de disciples, de participer à l'œuvre d'évangélisation dans notre pays, à travers le monde, dans notre témoignage personnel. Nous avons cette responsabilité de faire connaître Christ au monde entier. Et comme je l'ai dit, le monde a une conception bien différente de qui est Jésus-Christ par rapport à ce que la Bible nous révèle de lui. D'où l'importance pour nous de montrer aux gens qui est Jésus-Christ, de leur faire connaître qui il est et ce qu'il a fait. Et donc, comme j'ai dit ce matin, on va regarder à ce passage et tirer les enseignements pour nous aider, nous, dans notre témoignage, sur comment nous devons agir, procéder, si vous voulez, pour révéler Christ aux personnes autour de nous. Je crois que la première chose qui est intéressante ici dans ce passage, et c'est le premier point qu'on va relever, c'est que nous devons saisir chaque occasion pour révéler Christ, même les situations les plus banales. On sait que le ministère de Jésus avait pris de l'ampleur. Dès le premier verset de ce chapitre, on voit même que ça commençait à déplaire aux pharisiens le fait que Jésus, soi-disant, baptisait beaucoup plus de disciples que Jean. Et donc, il y avait cette crainte chez les pharisiens de voir Jésus avoir encore plus de popularité, si vous voulez, d'influence sur le peuple qu'on en avait Jean-Baptiste déjà. Donc ces chefs religieux, ces pharisiens, exerçaient eux-mêmes déjà une influence assez importante sur le peuple juif, dans le domaine spirituel. Mais c'était un système qui était fait de règles parfois très arbitraires, de règles humaines à suivre, et beaucoup, beaucoup de ces pharisiens, la grande majorité d'entre eux, étaient en fait très hypocrites. D'ailleurs, le Seigneur Jésus leur a clairement appelé ainsi, hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de se présenter comme les défenseurs de la loi de Moïse, mais en fait, ils ne vivaient pas la loi de Moïse, ils n'accomplissaient pas la loi de Moïse. C'était des personnes qui, dans l'apparence, ils montraient des personnes, ils se montraient comme des personnes religieuses, et ça épatait le peuple. Mais dans le cœur, et ça, encore une fois, le Seigneur Jésus a relevé ça plusieurs fois en eux, dans le cœur, eh bien, il y avait la noirceur du péché, il y avait l'hypocrisie. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur les a même qualifiés de sépulcres blanchis. C'est-à-dire que l'extérieur paraissait bien, mais l'intérieur était complètement pourri. Et donc, ce groupe de pharisiens voyait cela et voulait empêcher que le ministère de Jésus puisse prendre encore davantage d'ampleur. On sait que ces pharisiens avaient donc une influence importante. On le sait de ce que ils ont quand même réussi à influer les chefs romains afin de faire crucifier Jésus-Christ. On voit le poids qu'ils avaient dans la société juive, mais même parmi les Romains. Mais voilà, dès les premiers versets de ce chapitre 4, on voit que ce qui a amené le Seigneur Jésus à partir de la Judée pour se rendre en Galilée, c'est le fait que les pharisiens savaient cela, et vraisemblablement, ils allaient tenter de faire quelque chose pour s'opposer au ministère de Jésus-Christ. Et de là, donc, il quitte la Judée, verset 3, il va en Galilée, mais notez bien que le verset 4 nous dit « il fallait qu'il passe par la Samarie ». Alors c'est intéressant parce que, en effet, pour partir de Judée et d'aller en Galilée, le chemin le plus simple, le plus court, c'était de passer par la Samarie. Il y avait d'autres chemins, un chemin qui passait à l'ouest, qui longeait la côte, l'autre qui passait à l'est, mais les deux prenaient beaucoup plus de temps, c'était des chemins plus longs, mais le chemin le plus court, en effet, c'était de pouvoir traverser la Samarie. À cette époque, on sait qu'il y a, entre juifs et samaritains, et d'ailleurs c'est souligné ici dans le passage que nous avons lu, qu'entre ces deux peuples, il y a de l'animosité. Qu'entre ces deux peuples, eh bien, il y a quelque chose qui les sépare, et qui les sépare tellement qu'ils ne voulaient même pas avoir affaire avec l'un et l'autre. Et c'est pour cela que la plupart des juifs contournaient la Samarie, préféraient prendre un chemin plus long plutôt que de passer par la Samarie. La raison pour cela, elle est ancrée dans cette hostilité ancestrale, parce que ça faisait plusieurs siècles déjà que ces relations étaient ainsi entre juifs et samaritains. Cela remonte, rappelez-vous, lorsque le règne de Salomon a pris fin, après cela, le royaume d'Israël a été divisé en deux, le royaume d'Israël du nord, le royaume du Juda au sud, et que cette séparation avait amené des situations très mauvaises pour le royaume du Nord, parce que c'est un royaume qui a eu que de mauvais rois, qui ont fait de mauvais choix, en termes de choix spirituels. Le royaume du Juda, on a une alternance entre bons et mauvais rois. Mais voilà, on sait que à partir de ce moment-là, il y a eu de l'hostilité, justement, entre la Samarie et les Juifs. En fait, la Samarie, c'est lorsque le roi Omri a fait justement de Samarie la capitale de son royaume du Nord, et c'est resté pour décrire, pour définir cette région-là. Alors plus tard, si vous vous en rappelez, en 722 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord, il est conquis par le royaume d'Assyrie. Et lorsque les Assyriens, eh bien, faisaient la conquête d'un pays, d'un peuple, d'un territoire, leur pratique, c'était notamment de déplacer les populations, de ramener des populations de pays déjà conquis et de les ramener dans ces nouveaux territoires conquis. Et leur idée, c'était de pouvoir mélanger les peuples afin de pouvoir mieux régner sur eux. Et ce que l'on voit se produire à cette époque-là par rapport au royaume du Nord, c'est effectivement cela. C'est que petit à petit, hein, ce peuple d'Israël, eh bien, va finir par se mêler à d'autres nations, pas simplement hein, sur le thème, sur la culture, mais surtout spirituellement. On est en train d'étudier, les mardis soirs, on était en train de regarder au livre des juges et de voir comment, hein, à cette époque-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon en termes de vie spirituelle et les mauvais choix et l'idolâtrie qui est entrée, hein, dans le pays, et comment cela a affecté, le peuple. Et là, avec le Royaume du Nord, on a ça, on a beaucoup d'influences qui viennent, hein, de religions païennes et qui vont, créer cette, on va dire, nouvelle, si vous voulez, religion, hein, que les Samaritains ont suivi pendant des siècles et que l'on voit encore ici dans ce passage de Jean chapitre 4. Donc au fil du temps, voilà, ce qui a amené Samaritains et Juifs à ne plus avoir de relations et à s'éviter le plus possible. Les Samaritains, c'était donc, sur le plan religieux, séparés du peuple juif. Ils avaient construit leur propre temple sur le mont Garizim, et considéraient, hein, seulement certains livres comme faisant autorité, hein, ils regardaient que au Pentateuque et ne regardaient pas aux livres, hein, des prophètes, etc. Et donc, il y avait beaucoup qui opposaient ces deux peuples en termes culturels, mais surtout en termes spirituels. Et donc la question se pose, parce que au verset 3, nous lisons que il fallait que Jésus passe par la Samarie. Pourquoi cette nécessité? Qu'est-ce qui a poussé Jésus à traverser la Samarie? Est-ce que c'était pour gagner du temps? Je ne pense pas, vu les événements que nous avons lus, hein, qui se sont produits par la suite. Était-ce sous l'impulsion de l'Esprit-Saint? C'est bien plus probable. On sait que le Seigneur Jésus a constamment cherché à faire la volonté du Père. Il l'a fait parfaitement. Et on sait qu'il a toujours agi ainsi. Et ce n'était pas une rencontre anodine. Il fallait que Jésus passe par la Samarie pour effectivement rencontrer cette femme samaritaine et justement à cette heure de la journée où elle serait présente justement là à ce puits. Était-ce donc parce qu'il connaissait les besoins spirituels des Samaritains? Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il voulait aussi enseigner à ses disciples une leçon importante par rapport à l'évangélisation et par rapport au fait qu'il ne doit pas y avoir de discrimination dans notre effort d'évangélisation? Oh oui. Les événements, les diverses circonstances ont conduit Jésus à aller en Galilée, hein, les pharisiens qui savaient que pensaient que Jésus baptisait plus, hein, que Jean, ça les inquiétait. Donc Jésus part de la Judée pour aller vers la Galilée. Mais aussi le fait qu'il arrive à ce puits, et nous voyons là ici le Seigneur Jésus dans son humanité. On sait que l'évangile de Jean nous présente Jésus, fils de Dieu, hein, dès le premier chapitre, c'est évident. Mais là, on le voit dans son humanité. On vient de lire qu'il était fatigué. On vient de lire qu'il avait soif. On voit Jésus dans son humanité par rapport à ses besoins physiques comme étant réels. Et ça a eu un impact. Il fallait qu'il passe par la Samarie et il s'arrêtait, et ce n'est pas par hasard, à ce puits-là. Il avait soif, il était fatigué, les disciples ont pu partir aller chercher des vivres et il se retrouve seul pour pouvoir rencontrer donc cette femme samaritaine. Et là, on voit Jésus demander donc de l'eau à cette femme samaritaine. En toute simplicité, Jésus va se servir de cette circonstance. Un, il devait partir de la Judée pour aller en Galilée, passer par la Samarie. Il avait soif, il avait besoin d'eau. Il y a cette femme qui arrive pour puiser. Donne-moi à boire. Quelque chose de très simple. Mais à partir de cela, on voit effectivement le Seigneur Jésus progressivement arriver au point où la femme réalise qui elle a en face de lui. Et là, c'est une leçon importante pour nous aussi. Comment est-ce que nous percevons les circonstances de notre vie? Souvent, quand il nous arrive une tuile, souvent quand il y a un besoin, etc., et que on se retrouve un peu dans la panade, comment est-ce que nous voyons ces circonstances-là? Est-ce que notre réflexe est automatiquement de se demander, tiens, peut-être que le Seigneur veut que je passe par là. Peut-être que le Seigneur, il veut que ceci m'arrive. Peut-être que le Seigneur a permis cela pour que je puisse peut-être parler à cette personne ici, ou celle-ci, ou celle-là. Est-ce que nous voyons toutes ces circonstances comme des occasions potentielles de pouvoir témoigner, de pouvoir révéler Christ? Est-ce que nous recherchons la direction de l'Esprit-Saint? Est-ce que notre réflexe est, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire et à qui je dois parler? Et de saisir ces occasions pour révéler le Messie, pour révéler qui il est, pour révéler ce qu'il a accompli. Comment est-ce que nous réagissons donc à ces obstacles? Il y a quelques années, j'ai peut-être déjà partagé cela avec vous, mais quand j'étais à l'Institut biblique, l'un de mes professeurs était un missionnaire ici en France, et il a servi le Seigneur pendant près de 50 ans en France. Mais à cette époque-là, pendant que j'étais à l'Institut, il a été diagnostiqué avec un lymphome, un cancer du système lymphatique. Et pourtant, c'était un homme qui était toujours en pleine santé. C'est quelqu'un qui était assez svelte, c'est quelqu'un qui faisait des marathons, qui, à son âge, il était déjà dans la soixantaine et il continuait encore de faire des marathons. C'était quelqu'un qui, à tout point de vue, il était en bonne santé. Et voilà, ce diagnostic tombe. Il aurait pu se laisser abattre par la situation. Il aurait pu crier à l'Éternel pourquoi. Mais le témoignage qu'il nous a donné, pas simplement verbalement, mais par sa vie, l'exemple qu'il a donné, il a saisi cette occasion-là pour chercher les occasions de révéler Christ. C'est-à-dire que lorsqu'il était à l'hôpital, il a saisi les occasions de pouvoir témoigner aux médecins, aux infirmières, aux autres patients. Et ce qui a été aussi un déclencheur, si vous voulez, pour cela, c'est le fait qu'il avait demandé à un de ses fils de lui commander une casquette sur laquelle était inscrit « Dieu est ma force ». Et donc, bien sûr, avec la chimio, il avait perdu ses cheveux et puis il avait besoin de se couvrir la tête. Et donc, il mettait cette casquette. Et quand il se rendait à l'hôpital, les gens voyaient cela, les gens étaient interloqués, les gens lui posaient la question. Et lui, en toute simplicité, pouvait saisir cette occasion pour révéler Christ. Il n'a pas laissé cette terrible maladie l'empêcher. Il n'a pas laissé cette maladie être un obstacle. Au contraire, il a utilisé cela pour la gloire et le service de Dieu. Et malgré donc ses limitations physiques, il a continué d'enseigner, il a continué de servir le Seigneur et par la suite guérir de cela. Aujourd'hui, bon, il est auprès du Seigneur. Mais son témoignage, il reste là. Il reste ancré aussi dans ma vie, dans celle de mon épouse, de se rappeler que dans toute occasion, nous avons la possibilité de révéler Christ, de saisir les choses qui nous arrivent, les situations qui se produisent dans notre vie pour révéler Christ. Parfois, ce sont des situations banales que nous pouvons employer. Lorsque nous allons aider un voisin, notre sœur a partagé le fait qu'elle a des figues et qu'elle les donne, elle va au contact des voisins. Ce sont des choses banales comme ça que nous pouvons aussi employer pour révéler Christ. Mais parfois, le problème, c'est que nous laissons ces obstacles nous empêcher de parler du Seigneur. Et là, on arrive donc à deuxième chose que je vois dans ce passage ici par rapport au témoignage de Christ, c'est que nous devons briser les barrières culturelles, les barrières sociales, les barrières religieuses. Parce que ça n'a pas empêché Christ ici de révéler qui il est. On a vu comment le Seigneur, par cette simple demande banale, « Donne-moi à boire », eh bien, il a entamé une conversation avec cette femme samaritaine. Mais par ces mots, ce qui est vraiment formidable ici, c'est qu'il n'entame pas simplement une conversation banale, il établit aussi le thème de la conversation qu'il va avoir, un thème spirituel qu'il va avoir avec cette femme. Alors, encore une fois, le contexte historique et religieux dans lequel cet événement se déroule, il faut en être conscient. Déjà, tout opposait juif et samaritain. Mais on sait, comme dans beaucoup de pays hein, du Moyen-Orient, ce n'est pas dans les habitudes ou dans les mœurs traditionnelles et sociales qu'un homme s'adresse à une femme. On sait que dans certains pays, hein, s'il ne s'agit pas de son mari ou d'un membre de la famille, une femme n'est pas autorisée à parler à un homme. Et donc là, on voit Jésus-Christ qui est seul à ce puits. On a vu les raisons pour lesquelles il se trouve là. La femme samaritaine arrive et il dit « Donne-moi à boire ». Et juste par cette demande-là, il va prendre quelque chose d'une situation, d'un besoin physique que lui, il avait, pour amener cette femme à comprendre son besoin spirituel. Et le thème de l'eau ici, ce n'est pas anodin du tout. On sait que tout séparait cet homme et cette femme. La femme était surprise que Jésus lui adresse la parole. Les disciples eux-mêmes étaient stupéfaits que Jésus parle à une femme, à une samaritaine. Alors comment est-ce que le Seigneur Jésus il a fait pour surmonter ces obstacles, ces barrières ? Ben, en toute simplicité, il lui a parlé. C'est aussi simple que cela. C'est de décider de parler. De parler peut-être de choses banales, mais peut-être aussi de parler avec un objectif, celui de saisir cette occasion pour révéler Christ. Combien de fois nous arrive de penser que la situation n'est pas appropriée pour parler du Seigneur? C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Oh là, ça va être compliqué avec une telle personne du fait de son appartenance religieuse. Mais n'est-il pas terrible hein, de constater que les raisons mêmes qui nous poussent à partager l'Évangile sont devenues pour beaucoup de chrétiens des raisons à ne pas le faire. C'est-à-dire que l'Évangile que nous partageons, c'est pas pour amener des personnes à une nouvelle religion. L'Évangile que nous partageons, c'est pour leur faire comprendre qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour eux et le besoin spirituel qu'ils ont d'avoir leurs péchés pardonnés. Mais souvent, on pense que, voilà, si on va leur parler de l'Évangile, ils risquent d'être offensés. Et s'ils sont offensés, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont me percevoir? Et on laisse ces choses devenir des obstacles. Alors qu'ici, Jésus, il nous montre qu'en toute simplicité, le fait de simplement discuter avec la personne et de graduellement, progressivement, arriver à cette conclusion où la femme samaritaine reconnaît qui il est, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous ne nous laissons pas enfermer dans cette mentalité du politiquement correct. Nous devons nous rappeler que nous sommes justement appelés à professer la vérité dans l'amour, n'est-ce pas? Malheureusement, beaucoup de chrétiens professent la vérité, mais l'amour est quelque chose qui est une grande lacune chez eux, dans leur manière de professer la vérité. Ils oublient hein, de répondre avec douceur et avec respect à quiconque demande raison de leur foi. Et pourtant, ce sont les choses précisément que le Seigneur veut que nous fassions lorsque nous parlons de lui autour de nous, que nous professions la vérité dans l'amour, que nous ayons du respect, de la douceur. Combien de fois nous sommes donc retrouvés dans des situations où nous avons laissé ces pensées de « c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne personne ». Combien de fois est-ce que on était peut-être dans une salle d'attente chez un médecin et puis il y a juste une autre personne et on aurait pu commencer une conversation? Combien de fois, et là maintenant je m'adresse aux gars parce que c'est vrai que nous les gars, on va rarement chez le docteur, hein, on préfère souffrir que d'aller chez le docteur. Peut-être c'est quand vous allez au garagiste, hein, vous allez pour votre vidange ou quoi que ce soit et que vous attendez là. Mais peu importe, on a tous des situations dans notre vie que l'on peut saisir pour parler du Seigneur en commençant avec quelque chose d'aussi banal que « donne-moi à boire ». Remarquez ici que le Seigneur Jésus n'a pas entamé sa conversation par ce qu'on entend souvent comme phrase qui accroche. Savez-vous où vous allez passer l'éternité? Je crois que beaucoup de gens ne se posent même pas cette question-là, c'est vrai. Mais est-ce que c'est l'approche que l'on voit le Seigneur prendre ici? Non. Il ne lui a pas d'emblée dit « tu es pécheresse, tu vas en enfer ». Non. Son but ici, par cette simple question, quand il demande à boire, c'est d'amener cette femme à comprendre qui elle a en face de lui. Regardez le verset 10. Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. C'est-à-dire, si tu connaissais qui tu as en face de toi, si tu me connaissais moi, c'est toi qui aurais demandé à boire, c'est toi qui aurais reçu de l'eau vive. Et ici, l'expression eau vive, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas un hasard non plus. L'expression eau vive est quelque chose que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie 2,13, Dieu se désigne lui-même comme étant la source d'eau vive. Christ, ici, encore une fois, il affirme qui il est, il affirme sa divinité. Si tu me connaissais, si tu connaissais celui que tu as en face de toi, c'est lui qui est l'eau vive dont tu as besoin. Et donc, au verset 14, il explique à cette femme que lui-même, il est cette eau vive. Notez que, comme dans le chapitre précédent avec Nicodème, il va utiliser une image pour expliquer quelque chose de spirituel. Hein, beaucoup de gens ont besoin d'images pour comprendre les choses spirituelles. Et ici, Jésus, il va prendre l'image de l'eau. Parce que l'eau, c'est quelque chose que l'on a besoin pour vivre, n'est-ce pas? On ne peut pas survivre sans eau. On a besoin d'eau. Et ici, donc, Christ, il prend cette image-là pour faire comprendre à cette femme samaritaine qu'elle a besoin de l'eau vive. Remarquez également que Jésus, il a adapté son discours. Dans le chapitre 3, il s'adresse à un docteur de la loi, hein, quelqu'un qui a de grandes connaissances des Écritures. Et il peut lui parler, hein, de choses peut-être un peu plus complexes. Mais ici, avec la femme samaritaine, on ne sait pas, peut-être c'était une femme illettrée, comme beaucoup l'étaient à l'époque, mais on sait, de ce que nous lisons dans ce passage, que c'était une femme qui vivait dans le péché. Et le Seigneur Jésus, donc, il adapte son discours. Verset 14, il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Pourquoi il dit cela? Parce que la femme, elle n'avait pas compris. Elle dit, hey, si tu as une source d'eau comme ça, moi je veux bien puiser comme ça, j'ai plus besoin de puiser de toute ma vie. Elle pensait en termes terre à terre, des besoins physiques, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, non, 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 non. Ici, je te parle d'une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Encore une fois, nous ne sommes pas ici pour présenter une religion au monde. Nous ne sommes pas ici pour prêcher une nouvelle philosophie ou un nouveau mode de vie. Nous sommes ici pour révéler Christ et le révéler par notre vie, le révéler dans nos conversations. Et il est Dieu, il est la vie, il est le seul chemin, la vérité pour quiconque veut connaître la grâce de Dieu. Et donc, on peut pas laisser ces barrières sociales. On peut pas réfléchir en termes de, oh, ça va offenser. Oh, tiens, non, ça va pas être bon. C'est pas le bon moment, etc. Mais de se laisser diriger par l'Esprit Saint. Comme beaucoup l'ont été. Comme Étienne l'a été. Comme Philippe l'a été. D'être dirigé par l'Esprit Saint pour savoir quand et où intervenir et parler et discuter avec les gens du Seigneur Jésus. Vous savez, à travers le monde, il y a des missionnaires qui sont constamment confrontés aux obstacles culturels. Mais ils ne laissent pas ces obstacles-là être une entrave pour la prédication de l'Évangile. On est tous confrontés à des obstacles culturels, à des obstacles sociaux. Il y a tellement de changements dans notre société, dans notre pays actuellement, qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, que nous demandons comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Et beaucoup de choses deviennent des barrières, des obstacles. En se disant, ben non, c'est pas la peine de parler à cette personne-là, elle va me rembarrer tout de suite, hein, elle va m'envoyer balader, ou même, on voit cette personne et on se dit, ou celle-là, elle pourrait même être dangereuse. Mais quand nous réfléchissons ainsi, qui est-ce qui pose les barrières? Qui est-ce qui est en train de mettre les obstacles, si ce n'est nous-mêmes? Rappelons-nous que nous devons regarder à chacun de nos interlocuteurs comme des âmes perdues. Que Christ a tant aimé, tellement aimé qu'il a donné sa vie sur la croix. Nous sommes les ambassadeurs d'une nation céleste, n'est-ce pas? Bien plus importante que n'importe quel pays ici-bas, n'importe quelle culture ici-bas, n'importe quelle religion ici-bas. Hein, Pierre nous rappelle que nous qui sommes en Christ, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et notez bien la raison, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire que Christ nous a sauvés, nous avons bénéficié de cette vie nouvelle, éternelle, en Christ. Et il attend de nous de ce que nous partagions cela avec les autres. N'oublions pas que la mission de l'Église, la mission de chaque chrétien, c'est de révéler Christ. Mais il y a une troisième chose aussi à voir ici dans ce passage, et je crois que c'est là un danger pour beaucoup, c'est que nous devons nous concentrer sur les besoins spirituels plutôt que sur les besoins physiques. Je crois que ici, ce passage-là nous montre cela de manière bien évidente. Certes, Jésus, il commence ce discours avec « Donne-moi à boire », il part d'un besoin physique, mais il va aller au plus important pour cette femme, son besoin spirituel. « Donne-moi à boire ». Et il lui offre donc cette eau vive, la vie elle-même, Dieu lui-même, celui qui donne vie, celui qui est la source de la vie éternelle. Et pourtant, comme je l'ai dit au verset 11, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce que Christ est en train de dire. Elle lui dit, mais t'as rien pour puiser. Le puits, il est profond. Comment tu peux me donner cette eau vive? Et donc là, le Seigneur, il va orienter la discussion donc, vers les choses spirituelles. Il lui montre que, oui, ce puits ici, il peut, étancher la soif, mais ça va être temporaire. Par contre, moi, l'eau que je veux te donner, c'est la vie abondante. C'est la vie éternelle. Christ lui propose ici la vie éternelle et elle ne comprend toujours pas ce dont il est en train de parler. Et souvent, lorsque nous allons parler de choses spirituelles, oui, les gens ne vont pas comprendre ce que nous disons. Mais il faut s'accrocher et persévérer et expliquer les choses. La femme samaritaine ne comprend pas ce que Jésus lui propose ici, et elle se concentre sur ses besoins physiques, sur ses besoins matériels, comme beaucoup de gens. Ce que je trouve souvent triste, c'est que nous voyons beaucoup de gens venir à l'église, s'intéresser au christianisme, parce qu'ils ont des besoins physiques, parce qu'ils ont des besoins matériels. Or certes, par la grâce de Dieu, ils peuvent entendre le message de l'Évangile et comprendre leurs besoins spirituels. Mais malheureusement, vous voyez, ces choses-là ont été poussées comme étant bien plus importantes que le besoin spirituel. Beaucoup d'églises, en fait, se sont dégagées de leurs responsabilités spirituelles et ont remplacé cela par, bien, on va faire du bien aux gens, on va faire des choses charitables, on va pourvoir aux besoins physiques, on va pourvoir aux besoins matériels, et on va faire toutes ces bonnes choses. Et ce sont des bonnes choses, mais le problème, c'est que cela a pris tellement plus d'ampleur que le besoin le plus important, que ce besoin spirituel est presque effacé par les œuvres de charité. Et c'est là où il faut faire attention, de bien comprendre et de se rappeler constamment que le besoin spirituel est bien plus important que le besoin physique. Des milliers de personnes sont donc attirées par ces églises où on propose les guérisons. Beaucoup de personnes sont attirées par ces églises où leur besoin émotionnel va être rempli parce qu'on leur offre une sorte de spectacle, une sorte de show où les émotions sont à vif et ça leur fait quelque chose. Et pour eux, ça, c'est la vie spirituelle. Et pourtant, ils négligent la chose la plus importante, la rédemption de l'âme. Le besoin le plus urgent et le plus important. Alors ici, puisque cette femme, elle ne comprend toujours pas ce que Jésus est en train de parler, il va certes employer sa capacité, il est Dieu, il sait qui il a en face d'elle, il connaît sa vie par cœur, et il lui dit, va chercher ton mari. Et par cela, il veut amener cette femme à réaliser que voilà, Dieu connaît sa vie. Et elle a au moins l'honnêteté de dire, voilà, non, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, moi je sais, tu en as eu déjà 5 et celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Et alors là, il y a un déclic. Là, elle comprend que il n'est pas en train de parler de choses physiques, il est en train de parler de choses spirituelles maintenant. Et il met donc en lumière ce besoin spirituel chez cette femme samaritaine. Au verset 16, donc il va la mettre face à ses responsabilités en lui demandant d'appeler son mari. Et il sait qu'elle vit dans le péché. Et la femme admet hein, qu'elle n'a pas de mari, qu'elle n'est pas mariée avec l'homme avec qui elle vit. Et là, pour cela, Jésus, hein, il la félicite qu'elle ait dit la vérité et qu'elle a reconnu ce qu'elle était en train de faire dans sa vie en ce moment-là. Vous savez, les personnes à qui on va témoigner, on ne connaît pas leur vie, n'est-ce pas? Mais nous avons la vérité de la parole de Dieu que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe le péché. Et je crois que pour nous, ce que nous pouvons parler, c'est aussi de nos péchés. C'est de parler de comment, eh bien, Dieu a pardonné nos péchés et combien il nous aide chaque jour à nous détourner du péché et ne plus subir la tyrannie du péché. Souvent, ce que nous faisons malheureusement, beaucoup de chrétiens, c'est de pointer du doigt le péché dans la vie des autres. Et je crois que si on commence par pointer le péché qu'il y a dans notre propre vie, eh bien, cela déjà montre à la personne qu'on a en face de nous qu'on n'est pas en train de la juger, on n'est pas en train, nous, de la condamner, on est en train de partager qui est Christ et ce qu'il a fait pour nous. Donc, remarquez ici une chose importante. Jésus, il oriente la femme à avouer qu'elle vit quand même dans le péché, elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. N'est-ce pas? Est-ce que nous lisons dans ce passage Jésus l'a condamné? Non. Alors par contre, c'est pas parce qu'il ne la condamne pas qu'il approuve ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Mais ici, il n'est pas en train de chercher à condamner cette femme samaritaine. Il veut qu'elle comprenne d'elle-même son besoin spirituel de la grâce de Dieu, du pardon qu'il y a en Jésus-Christ. Et pour ça, elle a besoin de découvrir qui il est, qui est cet homme qui est en train de s'adresser à elle. Et donc c'est à ce moment-là que cette femme, elle perçoit quelque chose. Toi, tu es différent. Tu es un prophète. Et là, elle comprend que, eh bien, il veut plus qu'une conversation au sujet de l'eau, et c'est plus, c'est autre chose que la conversation au sujet de l'eau pour rafraîchir, pour enlever la soif. Non, il est en train de parler d'autre chose. Mais notez la réaction de cette femme. Parce que la réaction de cette femme, c'est la même réaction que nous rencontrons souvent avec des personnes qui sont déjà religieuses. C'est qu'elle se lance dans une discussion de débat, n'est-ce pas? Sur les croyances religieuses. Vous, vous dites cela, mais nous, on croit ceci. C'est ce qu'elle fait. Et beaucoup de gens font cela avec nous. Au verset 20, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que c'est à Jérusalem que les hommes doivent adorer. Elle cherche le débat. Elle cherche à montrer qu'elle a la raison et que lui a tort. Mais ici, la division qui régnait entre les Juifs et les Samaritains va amener le Seigneur à élever le niveau de la conversation d'un niveau intellectuel à un niveau spirituel. Il n'est pas là pour débattre. Verset 21, il dit, crois-moi, hein, l'heure vient et est déjà venue. Vous n'adorez pas le Père sur cette montagne. En fait, Dieu est esprit, on l'adore en esprit et en vérité. Hein, ce n'est pas le fait d'être présent dans un lieu spécifique, ce n'est pas le fait d'être en train de faire certaines œuvres extraordinaires, etc. C'est en esprit que nous adorons Dieu. Et pour pouvoir adorer Dieu en esprit, il faut que cet esprit il soit vivant, n'est-ce pas? Verset 22, il rappelle que le salut vient des Juifs, que le salut, le Messie promis par Dieu, viendrait des Juifs. Dieu y recherche de telles personnes qui sont prêtes à adorer en esprit et en vérité. Et donc là, Jésus réoriente la conversation sur le plus urgent, le plus important, sur le domaine spirituel, pas un débat théologique, mais sur ce qu'il y a de plus important. Et là, elle commence à comprendre. Elle commence à comprendre les paroles de Jésus. Elle dit, je sais que le Messie doit venir et qu'il dira toute chose, il va révéler toute chose. Et là, à partir de ce moment-là, Jésus dit, je suis, moi qui te parle, c'est moi, je suis le Messie. Voilà le but même du témoignage. Révéler Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Alors notez aussi que, en parlant de ces besoins, parce qu'on est en train de voir que les besoins spirituels sont plus importants que les besoins physiques. Au verset 31, on voit les disciples qui sont soucieux des besoins physiques de Jésus, n'est-ce pas? Ils le prient de manger. « Seigneur, il faut que tu manges quelque chose !» Et la réponse de Christ les déconcerte, n'est-ce pas? Ils ne comprenaient pas les paroles du Seigneur. Ce que le Seigneur leur a communiqué et enseigné, c'est que les besoins spirituels sont plus importants que les besoins matériels. C'est-à-dire que si on doit sacrifier le fait d'avoir soif, d'avoir faim, pour pouvoir témoigner à une personne, c'est bien plus important. Les besoins spirituels d'une personne sont plus importants que mes besoins physiques et matériels. Les besoins spirituels d'une personne sont plus importants que leurs besoins physiques et matériels. Christ y dit que sa nourriture est une nourriture spirituelle. C'est de faire la volonté du Père. Et comme j'ai dit, à partir du moment où chrétiens et église, eh bien, se concentrent sur les besoins matériels plus que sur les besoins spirituels, eh bien, ils se sont égarés de ce que Christ nous montre ici dans ce passage même. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous engager dans des œuvres caritatives, nous ne devons pas montrer de la charité autour de nous. Non, au contraire, c'est une chose que nous devons pratiquer. Mais bien plus important que cela, ce que nous devons faire, c'est de révéler Christ. Ah oui, on peut utiliser les œuvres caritatives pour pouvoir révéler Christ. Et je ne dis pas que, encore une fois, que ce sont des mauvaises choses, mais à partir du moment où elles deviennent plus importantes, au point où on néglige le besoin spirituel d'une personne, là, nous nous sommes trop égarés de ce que Christ nous montre dans ce passage. Donc oui, les besoins spirituels sont plus importants. Puis une dernière chose à noter dans ce passage, et on terminera avec ça ce matin, c'est le fait qu'on doit comprendre que l'évangélisation, c'est un effort collectif. C'est-à-dire que oui, ici, Jésus, il est seul pour discuter avec cette femme samaritaine, mais au retour des disciples, on voit la femme samaritaine qui décide de partir. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont interrompu Jésus dans sa révélation? Est-ce qu'ils ont tout gâché en revenant, etc.? Non, Jésus avait déjà révélé qui il était à cette femme. Cette femme, elle a compris qui elle avait en face de lui. Et on voit même qu'elle a compris cela parce qu'elle va retourner dans son village. Elle va annoncer à son entourage, « J'ai rencontré le Messie. Venez voir, venez voir. Je l'ai rencontré. » Et de là, donc, on a des villageois qui vont venir et eux-mêmes faire la rencontre du Seigneur Jésus et comprendre qu'il est le Messie. Mais non, ils n'ont pas interrompu. Ils n'ont pas interrompu. Mais ça amène Jésus, justement, à pouvoir enseigner ses disciples sur les choses importantes concernant l'évangélisation ici. Au verset 35, il dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ?» Et il dit, regardez autour de vous, tout est prêt, il n'y a plus qu'à récolter. Il n'était pas en train de parler, encore une fois, de choses physiques, il était en train de parler de choses spirituelles. Il a dit, pendant que vous étiez absent, moi j'ai travaillé, mais maintenant regardez, c'est vous les villageois qui viennent. Maintenant vous, vous pouvez moissonner. Et là on a cette compréhension que eh bien, l'effort d'évangélisation, oui, on est individuellement responsable d'évangéliser, mais en tant que collectif, en tant qu'église, on est tous ensemble impliqués dans cette œuvre de l'évangélisation. Dans ces versets, le Christ explique à ses disciples qu'il y a beaucoup de travail à accomplir, n'est-ce pas? Tout autour de nous, il y a des personnes qui sont perdues, mais il y a des personnes qui sont particulièrement prêtes à entendre le message de l'évangile, qui cherchent, qui sont quelque part désespérées de trouver la vérité. Beaucoup de travail à accomplir, tant pour semer que pour récolter. Ici, le Seigneur avait déjà semé. Les disciples n'avaient plus qu'à récolter, à moissonner. Et cet enseignement même, de ce travail d'équipe, c'est quelque chose que nous continuons de voir dans le Nouveau Testament. Paul, dans 1 Corinthiens 3:6, il explique que lui a planté, qu'Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est-à-dire que l'important pour nous, c'est être impliqué d'une manière ou d'une autre. Que nous soyons des semeurs, que nous soyons des moissonneurs, peu importe, nous sommes appelés à être impliqués dans ce domaine. Ça me rappelle le témoignage d'une sœur en Christ qui, justement, avant de connaître le Seigneur, elle a entendu des chrétiens lui témoigner, lui expliquer l'Évangile, et ce n'est que plus tard, elle fait la connaissance encore de nouveaux chrétiens, et puis dans notre assemblée, et là, un frère l'amène au Seigneur. Donc on voit ce principe-là, quelqu'un a semé, quelqu'un récolte, et c'est Dieu qui fait croître. Christ a été révélé à cette femme samaritaine, à cette ville de Sichar, aux Samaritains, et à partir de ce moment-là, on voit que ce que Christ est en train d'offrir, ce n'est pas quelque chose qui est réservé au peuple juif. Christ, il est venu pour le monde entier. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de limite à l'Évangile. L'Évangile est pour tous ceux qui sont désireux de connaître la grâce de Dieu. Mais pour que, justement, le monde puisse connaître Christ, pour que ces âmes perdues puissent connaître Christ, il faut qu'il y ait des chrétiens qui témoignent. Et je suis reconnaissant que parmi nous, il y en a qui sont attachés à cela, de saisir les occasions banales, de pouvoir montrer l'amour de Christ, de pouvoir saisir ces occasions pour parler du Seigneur, pour orienter les conversations sur les choses spirituelles. Mais voilà, il y a un besoin qui est réel, un besoin qui est réel en France et à travers le monde, eh bien, de chrétiens qui se lèvent pour et remplir, pour répondre à l'appel du Seigneur et remplir cette responsabilité-là. Paul, il nous rappelle dans Romains 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» C'est-à-dire que comment est-ce que nous pouvons espérer que des âmes se tournent vers le Seigneur si d'une manière ou d'une autre, en tant que chrétien, en tant qu'Église, nous ne sommes pas impliqués d'une manière à petite échelle comme à une plus grande échelle, mais si nous ne sommes pas prêts nous-mêmes à partager l'Évangile, comment est-ce que nous pouvons espérer que les âmes viennent au Seigneur? On sait que pour que les missionnaires puissent servir le Seigneur dans différents pays, ils ont besoin de soutien dans la prière, ils ont besoin de soutien financier, pour qu'il y ait des évangélistes qui parcourent la France pour prêcher l'Évangile, ils ont besoin aussi d'aide. Pour que les églises puissent justement accomplir cela et être un soutien ainsi pour ses frères et sœurs, nous avons besoin avant tout que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'église, on soit consacrés à partager l'Évangile et à saisir ces occasions. Et donc finalement, pour conclure, Jésus ici, il a parlé de nourriture. J'ai une nourriture que je n'ai pas besoin de ce nourriture physique. J'ai une nourriture spirituelle, celle d'accomplir la volonté de Dieu. Et la question, c'est quelle est notre nourriture? De quoi est-ce que nous nourrissons? Est-ce que notre nourriture, comme le Seigneur, c'est de faire la volonté du Père? Ou notre nourriture à nous, c'est de faire ce qui nous plaît, ce qu'on a envie? Nous avons reçu de Dieu cette mission de présenter Christ, de révéler Christ. Ici, Christ, il le fait d'une manière tellement simple, qui nous montre que c'est à la portée de n'importe quel chrétien de partir d'une conversation banale, de prendre une image pour expliquer ce que Dieu a fait pour eux et de finalement révéler qui Christ est. Il est le Fils de Dieu, venu dans ce monde, mourir sur la croix pour nos péchés, pour que nous qui sommes coupables, nous qui sommes responsables de nos péchés, nous n'ayons pas à payer la pénalité de cela. Ça, c'est la grâce, l'amour, la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Alors, révélons le monde en saisissant donc les occasions qui se présentent dans notre vie, des occasions même banales, pour présenter Christ, en ne laissant pas les obstacles nous empêcher de présenter Christ en toute simplicité, en se concentrant sur les besoins spirituels de la personne que nous avons en face de nous, et en se rappelant que c'est aussi un travail d'équipe. Alors, peut-être que vous vous dites, mais moi je suis plutôt encore un peu timide, je ne sais pas trop quoi dire. Il y a une chose que vous pouvez dire et qui est à votre portée à chacun d'entre vous, c'est de prier. Priez pour les chrétiens qui, eux, sont engagés dans l'évangélisation. prier pour les frères et sœurs lorsqu'ils partagent avec nous. Ouais, j'ai pu parler à cette personne du Seigneur. Priez, priez pour ce frère, priez pour cette sœur, pour que l'Éternel, eh bien, leur accorde toute la force nécessaire et les paroles nécessaires pour que cette âme puisse comprendre.